Les Années-Lumière, édition du 9 mai 2010. Les plateformes pétrolières, est-on allé trop vite, trop loin et trop profond avec cette technologie encore jeune ? Bonjour, ici Yannick Villedieu, l'équipe. Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Une édition qui commence, bien sûr, je dirais, avec ces questions, ces graves questions sur les plateformes pétrolières. Hugues de Roussan.
Oui, la marée dans le golfe du Mexique soulève des questions sur la technologie et la sécurité des plateformes pétrolières, mais peut-être aussi sur les techniques de récupération et de nettoyage.
Sophie-André Blondin, vous êtes allée cette semaine en orbite. À Toronto.
Et sur cette orbite, j'ai rejoint une centaine de chercheurs, d'étudiants, de militaires et d'industriels qui étaient réunis pour imaginer l'avenir du Canada dans l'espace.
Nous aurons ensuite le courrier des années-lumière, une question sur les ampoules électriques et leur pouvoir chauffant. Puis la chronique, cette semaine, Yves Gingras parle des démêlés entre un journaliste scientifique britannique et l'association des chiro de son pays. Le journaliste vient de gagner sa cause. Deuxième heure, Chantal Srivastava, c'est d'un film, c'est d'un livre, c'est d'un vaste sujet que vous nous entretiendrez.
Les océans, Yannick, qui couvrent près des trois quarts de notre planète et qu'on connaît pourtant bien mal. Alors, deux scientifiques qui ont participé à la production du film et du livre Océan viendront en témoigner en deuxième heure.
Il y aura ensuite le petit journal de la science. Et pour terminer l'émission, je vais recevoir l'auteur de la semaine, le paléontologue Jean-Louis Artemberger, qui s'est intéressé à un animal qui ne manque pas de prestance. Son livre s'intitule « Grandeurs et décadences de la girafe » parce que décadence et menace d'extinction il y a. C'est aux éditions Belin pour la science. Mais on commence donc avec d'autres géants, les plateformes pétrolières. La marée noire qui s'étend dans le golfe du Mexique depuis le 20 avril dernier pourrait dépasser celle de l'Exxon Valdez qui avait pollué 800 km de côte en Alaska en 1989. Alors tout a débuté, on s'en rappelle, par une explosion qui a secoué la plateforme de forage Deepwater Horizon. Bilan, 11 personnes qui perdent la vie sur le coup. La plateforme brûle pendant 36 heures, elle finit par couler. Et à la surface, on a donc une marée noire qui s'étend à raison de 800 000 litres de pétrole par jour. Cette catastrophe soulève bien des questions, notamment sur la technologie utilisée pour forer à de grandes profondeurs. Hugues.
Oui, Yannick, cette marée noire soulève, comme vous avez dit, beaucoup de questions. On ne pompe pas du pétrole à 1500 mètres de profondeur comme on le ferait à quelques dizaines de mètres ou sur la Terre. Il faut donc adapter ces techniques de forage, de pompage, mais aussi de sécurité. Cette catastrophe pourrait être un signe qu'on a peut-être atteint les limites de la technologie actuelle en matière de forage à de grandes profondeurs. Benoît Beauchamp est professeur en géophysique à l'Université de Calgary et il est aussi directeur de l'Institut arctique de l'Amérique du Nord.
Depuis une dizaine d'années, dans le golfe du Mexique, c'est une recrudescence de forage en eau très profonde. Et puis ça correspond à une avancée technologique importante au niveau des relevés sismiques. Dans le golfe du Mexique, il y a une couche de sel géologique très importante et très profonde également. On a toujours su qu'il y avait des possibilités de trouver des gisements importants sous cette couche de sel. Par le passé, on était incapable d'en tirer des images sismiques. Mais voici que depuis une dizaine d'années, la technologie a avancé très, très rapidement. Puis maintenant, on est capable de soutirer des images assez précises de la géologie sous cette couche de sel. Alors ça fait une espèce de course au forage profond dans le golfe du Mexique.
Cette poche de pétrole sous la couche de sel, est-ce qu'elle est profonde?
Des forages semblables au cours des dernières années, ça s'est rendu jusqu'à 5, 6, 7 ou 8 kilomètres sous la surface. Alors, ce que ça fait une surpression géologique, géostatique. Il faut faire très, très attention quand on forme ce genre de réservoir, parce qu'effectivement, on peut rencontrer des poches surpressurisées. Et c'est très probablement ce qui est arrivé. On n'a pas les détails encore. Il y aurait des enquêtes qui seront faites, évidemment. Mais c'est très probablement ce qui est arrivé. Une poche peut-être inattendue de surpression. Et puis, la technologie automatisée, les humains sur la plateforme n'ont pas pu retenir la pression et avec le désastre qu'on connaît maintenant.
Est-ce que la technologie qui est utilisée d'abord pour mettre un robinet, en quelque sorte, à 1500 mètres de profondeur, est-ce qu'elle est à point?
La technologie pour mettre le robinet, pour forer le trou lui-même, elle est à point. Si elle ne l'était pas, les compagnies n'investiraient pas les milliards de dollars comme ils le font. Par contre, ce qu'on voit maintenant, c'est que la technologie pour empêcher des explosions, ce qu'on appelle en anglais les « blowout preventers », on croyait que c'était une technologie à toute épreuve et on voit maintenant que même dans un endroit quand même assez calme comme le golfe du Mexique où une technologie à la fine pointe avec toute l'industrie du big oil comme on appelle, ils ont un désastre sur le dos maintenant.
Quand on parle de l'explosion, là, est-ce que c'est le gaz naturel qui sort?
Oui, en général, c'est le gaz qui vient en premier. Le gaz est très léger, surpressurisé. En général, c'est le gaz qui crée l'explosion. Et puis, une fois que le train de tige est brisé, dans ce cas-ci, il y a un énorme tuyau qui brisait à deux ou trois endroits. Alors là, c'est le pétrole qui suit. Il suit sous pression. Hein? Alors tout ça, c'est un peu une danse sur un fil, si vous voulez, par un acrobate entre la pression qu'il faut appliquer pour empêcher une explosion, mais en même temps, relâcher un peu de cette pression pour permettre aux débris du forage de pouvoir être évacués à la surface. Maintenant, c'est fait par ordinateur, mais on voit que même en 2010, avec toute la technologie et l'informatique qu'on a à notre disposition, il y a encore des erreurs qui peuvent être faites.
Ça veut dire que la technologie qu'on utilise dans le fond de l'eau pour prévenir l'explosion et retenir la poussée du gaz, elle n'est pas suffisante.
Au fond de l'eau, vous êtes, comme vous avez dit, à 1500 mètres de votre puits. Il n'y a pas de submersible qui vous permette de voir ce qui se passe. Vous n'avez pas accès directement à ce point de rencontre très important entre le fond marin et l'océan. Alors tout ça se fait de façon télécommandée, se fait à très grande distance.
Alors, c'était Benoît Beauchamp, qui est géophysicien à l'Université de Calgary. Alors, avec une marée noire de cette ampleur, Hugues, ça devient vraiment une course contre la montre pour essayer de contenir le pétrole, pour le récupérer, en tout cas, avant qu'il n'atteigne vraiment les côtes.
Oui, Yannick, il devient très difficile de contenir le pétrole, d'autant plus que la nappe de pétrole grandit chaque jour à cause du pétrole qui ne cesse de s'échapper du fond de la mer. La superficie de la nappe actuellement dépasse celle de la Jamaïque. La première chose à faire en cas de nappe de pétrole, c'est de déterminer comment le pétrole va se comporter dans l'eau salée, une donnée qui est déterminante pour décider comment intervenir. J'ai joint Christophe Rousseau, qui est assistant directeur au CEDRE en France. Le CEDRE, c'est le Centre de documentation, de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux.
On prend un échantillon de la pollution, on la met dans notre machine, un flume test en anglais, ce qu'on nous on appelle un polydrome, un anneau de vieillissement accéléré du pétrole. On recrée toutes les conditions environnementales de la pollution, la température, le vent, l'agitation de surface, et on fait ça de façon accélérée pour pouvoir rapidement dire aux autorités, voilà, le produit va se comporter comme ça. Et ça, après, ça nous permet de donner des indications sur les stratégies de lutte. Par exemple, on va pouvoir dire, ben, au bout de tant d'heures, c'est plus la peine d'envisager de traiter au dispersant parce que la viscosité sera très importante. À l'opposé, on va dire, il va falloir utiliser tel type de récupérateur ou tel type de pompe en fonction du comportement du produit. Dans le cas de la plateforme Deepwater Horizon, c'est la première chose qu'on a demandé à nos collègues de BP, c'est de nous donner les caractéristiques du produit. Donc on a fait tourner différents modèles. En gros, le produit a tendance à s'évaporer, parce que c'est un brut léger, il s'évapore en gros à 40%. C'est la raison pour laquelle on a vu des grandes nappes d'irisation, hein, parce que comme il est léger, il s'étale très vite, et après il fait des irisations qui s'évaporent. Il s'évapore en gros à 40%, et il va se diluer, se disperser dans le milieu encore à 10-15%. En gros, on a considéré qu'il ne reste à la surface au bout de quelques heures que 50% de ce qui a été déversé.
Et une fois qu'il est rendu à la surface, combien de temps il peut rester à la surface?
Le problème après ça, c'est que ce produit qui est riche en ce qu'on appelle en asphaltène, c'est un des composés du pétrole, a une forte tendance à piéger de l'eau, à faire ce qu'on appelle de la mousse au chocolat, de l'émulsion inverse. Et il peut piéger jusqu'à 80-90% d'eau. Alors, si vous regardez ce qui se passe, ben, vous divisez par deux le volume d'hydrocarbures qui est déversé, puisqu'on considère qu'il reste que 50% à la surface de l'eau. Mais après, comme il va piéger beaucoup d'eau, eh bien, il vous faut remultiplier ça par 3 ou 4. Le mélange eau-hydrocarbure, c'est le polluant que vous avez à traiter. C'est ça votre ennemi. C'est cette émulsion inverse que vous avez à la surface. Et cette émulsion inverse, elle est très collante. Il n'y a plus beaucoup de fractions biodégradables dedans. Toutes les fractions légères, elles sont déjà pratiquement parties par évaporation ou par dissolution. Donc c'est ça qui risque d'arriver dans les zones sensibles. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à nettoyer. Parce que ça colle très fort, parce que naturellement, le milieu va pas s'en accommoder. Et donc c'est ça qu'il va falloir vraiment enlever.
Donc, une fois là, que cette espèce d'émulsion collante là, se retrouve à la surface, est-ce que c'est contenable à l'intérieur des digues flottantes, des bouées flottantes?
Oh ben, en partie, sauf que ben, vous n'arrivez jamais à tout contenir, parce qu'à la surface de l'eau, c'est tellement gigantesque que vous n'arrivez pas à tout contenir, même en mettant des dizaines de kilomètres de barrages. Et une fois que vous l'avez contenu, de toute façon, il faut le pomper aussi. C'est encore pas facile.
Alors évidemment, donc, si le pétrole maintenant, ou quand il atteint les côtes, là, qu'est-ce qu'on a comme technique pour nettoyer tout ça?
Eh bien Yannick, il existe toutes sortes de techniques pour nettoyer une côte polluée par une marée noire. Dans le cas de marais ou de mangroves, qui sont des écosystèmes très fragiles, comme c'est le cas pour le delta du Mississippi et les côtes entre la Louisiane et la Floride, eh bien ces techniques peuvent être efficaces, mais malheureusement, elles ne sont pas toujours suffisantes. Et là, la nature peut alors s'avérer un précieux atout. On écoute à nouveau Christophe Rousseau.
Vous allez être obligé de faire très attention que les techniques de lutte que vous allez mettre en œuvre ne soient pas plus dommageables à l'environnement que le pétrole lui-même. Il faut limiter la pénétration des intervenants, parce que quand ils marchent sur ces substrats sensibles, eh bien, ils peuvent faire pénétrer le pétrole et tuer de façon durable l'environnement. Enfin, c'est très compliqué.
La nature a une capacité d'absorption et de lessivage et de nettoyage. Quand on procède à des opérations comme ça, on en tient compte.
Ah ben oui, le seul problème c'est que des milieux très protégés comme les mangroves et les marais, il n'y a pas beaucoup de lessivage naturel, c'est ça le problème. Et donc si on laisse le pétrole comme ça, on risque un impact très fort, donc ça veut dire que l'homme va être obligé d'aider la nature, mais d'aider la nature en prenant compte de cette sensibilité, en faisant très attention. Mettre en place des techniques de lutte, ne serait-ce que des ponts pour chasser le pétrole de la mangrove, je peux vous dire que c'est pas facile. Hein.
Le delta du Mississippi, il est alimenté en permanence par les eaux du Mississippi. Est-ce que ça pourrait contribuer à la capacité du delta de lutter par lui-même?
Ça, c'est pas impossible que le sens des eaux du Mississippi, ça va sûrement repousser le pétrole vers l'extérieur, ça c'est possible. Un autre paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est que ces eaux sont très chargées en matière en suspension, puisque c'est des eaux d'estuaires, donc il y a des particules, des matériaux solides en suspension, et le pétrole a tendance à se fixer sur ces matériaux pour couler ensuite. Donc ça, c'est aussi un phénomène qu'il faudra prendre en compte. Bon, le problème, c'est que dans 3 semaines, on commence la période des cyclones. Si dans la période des cyclones, il y avait des surcotes maritimes, c'est-à-dire des augmentations du niveau de l'eau, qui favorisent la pénétration du pétrole loin dans ces zones marécageuses, là, ça pourrait être très, très handicapant également.
Le pétrole qui pourrait se retrouver dans ces zones-là et qu'on n'arriverait pas à pomper, qu'on n'arriverait pas à nettoyer, la nature, combien de temps prendra-t-elle pour tout absorber?
J'ai pas d'idée. Franchement, c'est très difficile à dire. Moi, j'ai les expériences du pétrole brut, de la MOCO, sur nos zones rocheuses et sableuses de Bretagne. Globalement, sur un pétrole brut comme ça, la restitution complète pour certaines espèces, comme par exemple les homards, ça a pris 10 ans. Par contre, pour du fioul lourd, en gros, quand on fait un gros travail de nettoyage, donc quand la nature est aidée par le nettoyage de l'homme, ça prend en gros 2 ans. La fuite dans le golfe du Mexique, elle est à 80 km de la côte. De toute façon, le pétrole qui arrive sur le littoral, il a déjà beaucoup vieilli. Il n'y a pratiquement plus de fractions légères et les fractions les plus toxiques pour l'environnement, elles ne sont plus là. Elles se sont soit évaporées, soit elles se sont dispersées, diluées dans la colonne d'eau. Je ne dis pas qu'il n'y en ait pas encore. Hein.
Donc son impact sur la faune et la flore devrait en théorie être moins important.
Théoriquement.
C'était Christophe Rousseau, qui est du Centre de documentation de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux. Alors cette catastrophe, Hugues, va lancer bien sûr le débat sur les mesures de sécurité du forage en mer, évidemment.
Oui, et pas seulement aux États-Unis, mais aussi au Canada. La compagnie BP, c'est elle qui exploitait la plateforme Deepwater qui a explosé. Eh bien, elle détient 3 permis d'exploitation dans la mer de Beaufort et elle tente depuis plusieurs mois avec d'autres compagnies de faire pression auprès du gouvernement canadien pour ne pas être obligé de construire de puits de secours parallèles au puits principal. On se rappelle, Yannick, que la plateforme Deepwater n'avait pas de puits de secours.
Merci beaucoup, Hugues.
André Bertrand, journaliste au site Internet des Années-Lumière. Je vous rappelle que votre magazine d'actualité et de culture scientifique est disponible sur le web à l'adresse radio-canada.ca/lumière et également en diffusion en direct sur Sirius et en flux MP3. Vous pouvez même emporter l'émission dans votre poche en vous abonnant à la balado-diffusion sur notre site Internet. Il n'y a plus d'excuses pour manquer Les Années-Lumière avec Yannick Villedieu.
Quel avenir pour le Canada dans l'espace? Maintenant que les Américains ont précisé leurs ambitions pour l'exploration spatiale habitée, quelle place reste-t-il pour nos astronautes et pour nos technologies? Ce sont des questions qui ont été abordées cette semaine à la grande conférence sur l'astronautique qui se déroulait à Toronto. Vous y étiez, Sophie André.
Oui, il s'agit d'Astro 2010. C'est une conférence organisée tous les 2 ans, en fait, Astro, par l'Institut astronautique et spatial du Canada. Et oui, l'avenir du Canada dans l'espace, c'est une préoccupation d'autant plus pertinente cette année que chez nos voisins du Sud, l'administration Obama a imposé à la NASA un virage majeur au programme des vols habités américains, des vols qui ne viseront plus la Lune, mais qui vont se recentrer sur le développement des technologies qui vont permettre un peu plus tard, d'aller vers Mars. Alors, ces nouvelles orientations, elles ont un effet sur la suite des choses pour le programme spatial canadien. Pour les astronautes canadiens, par exemple, il reste une seule place, un seul voyage pour le Canada pour un séjour prolongé à bord de la Station spatiale internationale. Mais comme la station va voir sa durée de vie allongée, d'autres voyages pour les astronautes canadiens pourraient survenir, mais tout ça, ça reste à négocier.
Oui, et maintenant, sur les technologies spatiales canadiennes, est-ce que le recentrage américain a un effet, Sophie?
Oui, bien sur le programme des satellites, pas vraiment. C'est-à-dire que les nouveaux projets sont toujours en gestation et ça, je vous en reparlerai plus tard. Pour les technologies qui sont liées à la robotique, par exemple, ou celles qui sont liées à l'exploration spatiale, là, le vent de changement est, oui, ressenti jusqu'au Canada. Et là-dessus, les réflexions de Gilles Leclerc, qui était à la conférence et qui est directeur général exploration spatiale à l'Agence spatiale canadienne.
Pour l'exploration spatiale, la nouvelle politique spatiale américaine fait qu'il va falloir évidemment que nous, comme partenaire international, on suive cette direction, on choisisse quelle technologie on va vouloir pousser. On est en train de définir les activités qui vont converger avec la politique américaine. Et la nouvelle direction que la NASA prend, c'est en ligne avec ce que nous, on avait déjà anticipé. Par exemple, dans le budget 2009, le gouvernement fédéral a accordé à l'agence 110 millions de dollars sur 3 ans pour financer 3 grands volets. Premièrement, le développement de la prochaine génération de bras canadiens, donc le Canadarm de prochaine génération. Le deuxième volet, c'était pour le financement de différents prototypes de rovers, ce que nos amis du CNES appellent les astromobiles, pour des missions planétaires. Et finalement, le troisième volet, c'est du financement pour le développement de différentes technologies afférentes, des technologies qui sont liées à l'exploration. Donc, on parle de systèmes de vision, de navigation, des foreuses pour les surfaces planétaires, etc. On a toujours su être opportuniste, je crois. On a toujours bien su se positionner comme partenaires internationaux avec un budget très modeste, autour de 300 millions de dollars comparé aux bientôt 19 milliards de dollars de la NASA. Il faut choisir nos participations, il faut cibler ce que notre président Steve McLean appelle les technologies signatures, donc les créneaux dans lesquels le Canada a des chances non seulement d'être un participant, mais de briller, de devenir un leader. Et ce qu'on regarde aussi en développant ces technologies-là, c'est pas simplement pour l'exploration vers la Lune et Mars et au-delà, On veut que ces technologies-là aient des utilisations multiples, donc des applications ici sur la Terre, et aussi que ça serve à des destinations multiples. Donc, une technologie en navigation, une technologie en télécommunication, une technologie pour des instruments qui vont mesurer la composition des gaz de Mars. On veut que le même instrument, par exemple, puisse mesurer la composante des gaz autour de la Terre.
Dans la vie spatiale mondiale, il n'y a plus que les Américains et les Russes. Le paysage est beaucoup plus varié. Les Européens prennent beaucoup de place, des pays émergent. Qu'est-ce que ça veut dire pour le Canada dans son positionnement mondial?
On connaît bien les plans de nos partenaires internationaux parce que le Canada ne disposant pas de moyens de lancement, d'accès à l'espace, on compte sur les Européens, sur les Américains, sur les Indiens même récemment. Un de nos petits satellites a été lancé par un lanceur indien, puis il y a des marchés évidemment qui se développent. On est à l'intérieur du club de l'Agence spatiale européenne, on vient de renouveler pour 10 ans notre accord de coopération. Et évidemment, on regarde beaucoup ce qui se passe du côté des Américains. Mais il y a des très grandes ambitions du côté chinois, du côté indien, notamment pour le vol habité, pour des stations spatiales. Mais là aussi, il y a une question de temps. Ces choses-là ne se font pas instantanément. Donc, on se positionne avec prudence et avec les moyens qu'on a, évidemment.
Oui, bien sûr. Hein? Très canadien, prudence, nos moyens. C'était Gilles Leclerc de l'Agence spatiale canadienne.
Yannick, avec toute cette prudence, vous comprendrez ma surprise à la conférence de constater que la Lune, les robots lunaires, les stations lunaires prenaient beaucoup de place.
Oui?
Si notre partenaire principal ne va plus vraiment sur la Lune, pourquoi est-ce que tout le monde fait comme on faisait avant et se mobilise pour trouver des façons d'aller sur la Lune, de rester sur la Lune? La réponse est venue par la voix de David McKay, qui était là, qui est scientifique senior en astrobiologie, en exploration spatiale à la NASA depuis 45 ans. Il a vécu de près les programmes Apollo, les autres après, les hauts et les bas à la NASA. Et pour lui, pas de doute, l'humain va retourner sur la Lune, bientôt.
If NASA doesn't do it, other countries will do it, and furthermore, I think the private sector will do it. So I have full confidence we'll have people on the moon in 10 or 15 years. I would like to see Americans involved, and maybe they will be, but if not, the Canadians, the Europeans, and the Chinese will all be walking on the moon in the next couple decades.
Alors donc, il dit, si c'est pas la NASA, ça va être le secteur privé, ça va être les Chinois, les Européens, les Canadiens aussi, mais on va marcher sur la Lune dans les deux prochaines décennies. Donc, c'est ce vieux routier de la NASA qui a dit ça, David McKay.
Oui, c'est un agenda peut-être fort optimiste, mais voici de quoi l'alimenter. Jean de La Fontaine, un professeur de l'Université de Sherbrooke, qui est aussi président de NGC Aérospatiale, confirme qu'il existe des missions lunaires habitées en préparation.
L'Agence spatiale européenne s'y intéresse énormément. D'ailleurs, elle a émis un appel d'offres le mois passé pour définir une mission lunaire. La première serait une mission précurseur, c'est-à-dire qu'on va y aller sans être humain à bord, donc des missions robotiques. Mais oui, en effet, l'ESA ont un plan à long terme d'éventuellement de lancer et de faire atterrir des êtres humains sur la Lune pour y installer une station qui pourra servir éventuellement de base pour lancer des satellites et des humains vers d'autres planètes.
Jean de La Fontaine, donc président de NGC Aérospatiale, donc va pour l'exploration spatiale, mais le monde spatial est quand même beaucoup plus vaste, même au Canada, Sophie-André.
Oui, il y a d'autres aspects du monde spatial, comme les satellites, par exemple. Et le grand projet mobilisateur du côté des satellites en ce moment, c'est Constellation. La suite logique des programmes compte été RadarSat et RadarSat 2. Les satellites, c'est vrai que c'est moins accrocheur que la Lune ou que Mars, mais c'est une application spatiale qui nous touche tous. Quand, par exemple, on retire des fonds au guichet automatique, quand on consulte les prévisions météo, on se sert de ces satellites. Les budgets canadiens de 2010 prévoient près de 400 millions sur 5 ans pour ce programme Constellation qui regroupe 3 satellites. 3 satellites, ça veut dire plus d'images, plus souvent, et ça facilite la surveillance du territoire canadien. Ça va donner la capacité de surveiller, par exemple, les bateaux en haute mer et les approches maritimes de l'Amérique du Nord pourront être surveillées une fois par jour. C'est, dit-on, une capacité que le Canada sera le seul pays à détenir. Le colonel André Dupuis est directeur développement de l'espace à la Défense nationale du Canada.
La Constellation va nous donner la chance pour l'Arctique d'être capable de surveiller le territoire jusqu'à 4 fois par jour. Alors, une capacité qui est énorme pour protéger nos ressources naturelles comme la pêcherie ou bien l'huile et le gaz.
Protégé de quoi?
De savoir que, parce que c'est un grand territoire, ça serait possible que quelqu'un pourrait peut-être essayer d'explorer ou d'exploiter des ressources qui sont des ressources canadiennes. Alors, il y a communication, il y a la surveillance, il y a aussi une capacité de surveiller autres satellites pour bien comprendre s'il y a du monde qui serait peut-être intéressé à nos ressources, s'ils sont en train d'utiliser des satellites pour peut-être mieux comprendre nos ressources naturelles ou notre capacité de défense. Alors, il y a un très grand spectrum de capacités.
Alors, l'espace pour regarder vers la Terre, vers le Canada, l'espace pour regarder vers l'espace aussi, vers les satellites. Il commence à avoir beaucoup de monde en haut, là.
Oui, il y a présentement presque 2000 satellites avec presque 20 000 objets dans l'espace. Alors, c'est un espace qui est très congesté et ça prend, pour garantir la sécurité d'opération en espace, c'est tout un projet tout seul. On a eu une collision il y a février 2009 entre satellite Cosmos et satellite Iridium. On avait deux satellites. Après la collision, on avait à peu près 2000 objets.
Est-ce que l'environnement espace est en train de... Par exemple, vous, avec votre travail à la Défense nationale, êtes-vous en train de prendre votre place au même titre que la mer, la terre? Est-ce que l'espace prend sa place?
On vient juste de redéfinir les environnements. Il y a toujours eu la terre, la mer, puis l'air pour les avions. Mais on a ajouté l'espace récemment. L'environnement de cyber.
Cyberespace.
Le cyberespace. Et puis aussi le domaine humain. On aimerait utiliser le domaine humain pour modifier le comportement de certains humains, les talibans par exemple, ou
donc
d'autres.
La psychologie d'une certaine
manière. Oui, c'est exactement là. Alors, on a 6 gros nouveaux domaines, et puis l'espace en est un. Et puis un qui a beaucoup de support dans le département.
C'était le colonel André Dupuis qui dirige le nouvel environnement spatial à la Défense nationale du Canada.
Mais vous savez, même encombré, Yannick, l'espace est trop précieux pour être au seul usage des militaires. Saviez-vous, par exemple, que depuis l'espace, il est possible d'avoir un effet, une incidence sur la santé publique, de traquer les maladies infectieuses? C'est le dossier que défend Pascal Michel. Il dirige le programme Santé et environnement à l'Agence de santé publique du Canada.
On ne peut pas voir les microbes de l'espace, mais par contre, on peut voir plusieurs choses qui vont moduler l'apparition, l'émergence, la réémergence ou la transmission de ces maladies-là. On voit 3 choses, en fait, qui nous intéressent beaucoup. La source, on voit des modes de transmission et on voit des facteurs de modulation. En mots simples, maintenant, c'est qu'on peut voir, finalement, s'il y a une maladie qui est particulièrement d'origine animale. On parle de maladie zoonotique. On peut avoir différentes mesures de population, de densité de population pour ces animaux-là. Et on peut cartographier, à l'aide d'imagerie satellitaire, différents facteurs qui nous font comprendre où sont les animaux, à quel moment. Donc, on peut essayer de prédire la relation d'exposition qu'auront les humains face à ces animaux-là pour une transmission de maladies, par exemple.
Quand le vecteur est tout petit comme un moustique, par exemple, là, comme les microbes, le moustique est difficilement visible de l'espace.
Oui, mais on peut, par contre, monitorer très bien l'habitat du vecteur. Par contre, on parle de moustiques, on parle d'insectes, on parle de tiques. On peut très bien faire un monitoring très serré de leur habitat, mais non seulement de leur habitat, mais du changement de leur habitat. Donc, pour nous, avec cette connaissance-là, ça nous permet de pouvoir voir, mais aussi pouvoir prévoir où seront ces moustiques-là et, de ce fait même, où géographiquement pourrait se passer l'exposition des humains face à une maladie potentielle.
On se retrouve, Dr. Michel, dans une conférence où beaucoup, beaucoup des participants ont une bague sur le petit doigt. On est dans un monde d'ingénieurs. Dans ce grand monde du spatial, de l'industrie spatiale, les gens comme vous en santé publique, est-ce que vous êtes les bienvenus?
On est très bienvenus. En fait, il faut penser que l'avenir de l'application de ces technologies-là, et pas seulement des technologies spatiales, vient dans l'agglomération de disciplines. Et c'est probablement les aspects humanitaires, les aspects sociaux, les aspects santé de la planète, finalement, qui vont probablement faire le moteur de développement de ces technologies-là dans le futur.
Pascal Michel est directeur du programme Santé et environnement à l'Agence de santé publique du Canada. La santé humaine, c'est la santé de la planète aussi, bien
sûr. Et on
sûr.
Voit ça de l'espace aussi, comme voir les sources de pollution, voir les sources de chaleur naturelles, comme les volcans, mais voir les sources de chaleur produites par l'homme, par exemple, comme les îlots de chaleur dans les villes. Il ne manque pas d'idées pour mettre l'espace à profit. Ce qui est moins abondant, on le sait, c'est le financement. Alors, malgré tout l'enthousiasme, une petite fraction des idées qui sont présentées dans une conférence comme celle qui s'est déroulée à Toronto vont voir le jour et vont un jour partir pour vrai en orbite.
Merci beaucoup, Sophie André.
Au revoir.
Vous écoutez Des années-lumière, le magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada à venir. En deuxième heure, un voyage au fond des mers. Les scientifiques s'inquiètent de l'avenir des océans de la planète.
J'aurais honte, moi, de dire à mes enfants, voyez cet océan extraordinaire. Cet océan qui m'a offert tant de joie. Ces baleines, ces dauphins avec lesquels j'ai nagé. Eh ben, j'ai pas pu te les transmettre. Je les ai consommés. Par insouciance, par inconscience, par caprice. Ils ont disparu. Vous pensez qu'on peut dire ça à ses enfants?
Ses enfants, ni à ses petits-enfants. Alors, c'est le moment du courrier des auditeurs. La question cette semaine porte sur l'ampoule électrique.
Quand on allume des ampoules dans sa maison, est-ce qu'on paie à l'hydro la lumière qu'elles produisent ou uniquement à la chaleur qu'elles produisent? Est-ce à dire qu'il est important de ne pas laisser de lumière allumée pour rien durant l'été, mais qu'en hiver, cela a moins d'importance, étant donné que les ampoules produisent de la chaleur au même coût que les plaintes électriques?
Alors, pour répondre à la question de Daniel Jasmin, Hugues de Roussan a joint Kamal Al-Haddad, qui est ingénieur en électricité et professeur à l'École de technologie supérieure à Montréal. Il rappelle qu'un consommateur paye pour la quantité d'électricité que ça prend pour faire fonctionner une ampoule et que cette ampoule génère de la lumière visible dans une proportion de 5%. Le reste, c'est de la chaleur.
La grande question, est-ce que cette chaleur-là est utile? Est-ce que c'est la bonne chaleur? Est-ce qu'elle est au bon endroit? Généralement, une ampoule, elle est dans un endroit très haut dans une chambre. C'est à la couche supérieure proche du plafond. La chaleur dans une chambre, ou la chaleur en général, chauffe l'air. La densité de l'air devient faible et l'air chaud, par conséquent, monte au plus haut. Au plafond, on a la plus haute température. Au plancher, on a la plus basse. Donc, si on vient, nous, mettre une ampoule sur un plafond, on est en train de chauffer la partie la plus chaude de la maison. Par contre, si on met cette ampoule-là à un endroit au niveau du plancher, donc au niveau d'une table de chevet, etc., et si on veut qu'elle nous chauffe en même temps parce qu'on est content de la chaleur dégagée, cette chaleur-là sera diffuse au niveau de l'ampoule et elle va mettre du temps avant qu'elle monte vers le haut. Donc, un habitant qui est dans la chambre, il va sentir le confort de la chaleur qui est présente.
Puisque l'ampoule dégage de la chaleur, théoriquement, on devrait moins avoir à chauffer la pièce pendant l'hiver pour atteindre la même température.
Bien sûr, mais sauf que la chaleur dégagée par une ampoule en plein hiver, est-ce qu'elle est suffisante? La réponse est non, parce que si on regarde les plaintes électriques qu'on a dans les chambres ou dans les pièces qu'on chauffe, on parle d'à peu près de 1200 watts, 1300 watts des plaintes électriques qui sont installées. Donc si on compare le 100 watts à 1300 watts ou 1200 watts, c'est quand même un dixième de la puissance qui est fournie par la plainte électrique. C'est pas une chaleur négligeable non plus, 100 watts, c'est 100 watts aussi, mais c'est un apport presque négligeable. Mais on compte cette chaleur-là, nous, dans le bilan énergétique, oui, parce qu'on veut justifier que cette ampoule-là dégage une quantité de chaleur, puis cette quantité de chaleur, elle est utile, oui. Mais son apport réel, moi je dirais, est moins significatif et moins ressenti réellement par les gens. Sauf peut-être dans les périodes de transition des chaleurs, le passage de l'été à l'automne. Bien sûr que si on met des ampoules à incandescence dans les chambres, on peut éviter l'utilisation de chauffage pour augmenter la température d'une pièce d'un degré sur un horizon de 4-5 heures, oui. Mais c'est pas plus confortable que ça. Il ne faut pas imaginer que les ampoules vont chauffer les chambres, les pièces, pendant les périodes où on a réellement besoin de la chaleur.
Et c'est le même raisonnement inverse l'été. Lorsqu'on refroidit ou on abaisse la température des maisons pendant la chaleur, une ampoule ne change pas grand-chose par rapport au système de climatisation.
L'été, c'est la même chose, mais si on prend à l'échelle d'une maison, la facture d'éclairage, c'est une maison électrique, chauffée à l'électricité, éclairée, tout électrique, donc c'est même pas 10% de la consommation. Donc ce n'est pas la grosse consommation d'énergie qui va vers l'éclairage. Si on décide de mettre les ampoules en marche l'été, puis qu'on est en période de climatisation, la chaleur dégagée de ces ampoules-là doit être compensée par le système de refroidissement. Maintenant, combien de degrés ces ampoules-là augmentent la température de la pièce, c'est la grande question. Et dépendamment de la pièce, est-ce que la pièce elle est bien isolée, moins bien isolée? Quel est l'apport énergétique de cette ampoule par rapport à l'apport énergétique, l'effet capacitif ou l'effet emmagasinage de chaleur des murs, de la toiture? Oui, on dégage de la chaleur. C'est mauvais si on veut climatiser, bien entendu, parce qu'il faut sortir cette chaleur-là. Et la même chose l'hiver, on dégage de la chaleur, on chauffe, c'est bien fait. Maintenant, quelle est la quantification ou l'apport réel de ça? C'est difficile. Il faut faire quasiment un colorimètre et essayer de faire des mesures. Je ne pense pas que ce genre de mesures-là ont été faites. Et de toute façon, ce n'est que des justificatifs parce que dans le fait, veut pas, l'hiver, on veut éclairer, l'été, on veut éclairer. L'hiver, c'est une addition d'énergie. Ça va dans le sens positif. L'été, c'est une soustraction d'énergie parce qu'on doit doubler la consommation l'été parce qu'on consomme de l'énergie. On vient refroidir pour compenser ce chauffage-là. Donc, il faut encore consommer la même énergie. Donc, on se retrouve à consommer deux fois plus d'énergie l'été que l'hiver pour avoir le même résultat qu'on veut.
C'était Kamal Al-Haddad, ingénieur en électricité, professeur à l'École de technologie supérieure. Si vous avez des questions de science, vous pouvez donc nous téléphoner. De la région de Montréal, vous faites le 514-597-6166. D'ailleurs, au pays, sans frais, le 1-800-752-9050. Puis il y a le courriel lumière@radio-canada.ca. La chronique des années-lumière. Cette semaine, on va faire de la sociologie des sciences avec Yves Gingras de l'Université du Québec à Montréal. Bonjour Yves.
Bonjour Yannick.
Alors on va essayer aujourd'hui de regarder ce qui se passe avec les scientifiques qui interviennent sur la place publique à une époque où certains, disons, ont l'épiderme un peu sensible à la critique.
Oui, parce que d'un côté, on peut dire que depuis une dizaine d'années, on dit aux scientifiques d'intervenir sur la place publique, d'avoir une vision critique, de dire ce qui est bon et ce qui est pas très bon, et c'est tout à fait compréhensible. Mais on oublie parfois que si ça allait de soi dans les années 70 d'avoir des débats sur la science, où on a des désaccords, où on peut dire ta théorie est fausse, aujourd'hui, il y a cette super présence de toutes des visions qu'il faut bien dire d'avocats et de droit, où chaque phrase peut être perçue comme une attaque à la réputation. Et c'est là que la limite est rapidement franchie, comme le vient de le démontrer un cas très intéressant qui vient de se produire en Angleterre.
Oui, parce que si vous parlez de ça aujourd'hui, c'est à cause de cette histoire. Donc, un journaliste scientifique qui s'appelle Simon Singh, qui est journaliste au Guardian, publie dans son carnet, dans son blog, un article, et il va avoir maille à partir avec les chiropraticiens britanniques. On raconte l'histoire.
Donc, lui, qui est journaliste scientifique, il se dit, regardez, il y a des études, comme on en a vu très souvent sur les produits homéopathiques, beaucoup d'études vont montrer qu'un bon nombre de produits homéopathiques n'ont pas les effets qu'on leur prête. Lui, il montre, il dit, dans le cas très particulier, par exemple, de l'application de procédures chiropratiques aux coliques et à l'asthme, il dit, c'est pas démontré l'efficacité scientifique. Une phrase comme celle-là est parfaitement acceptable sur le plan scientifique. Mais grosse surprise, l'Association des chiropraticiens britanniques interprète cet énoncé-là comme une attaque à leur réputation. Pourquoi? Bien, le raisonnement implicite est simple, c'est de dire, si vous dites, M. Singh, que ces opérations-là chiropratiques contre la colique et contre l'asthme ne sont pas efficaces, vous insinuez donc que nous, on est soit menteur ou qu'on manipule les gens. On voit que la déduction qui est faite de l'énoncé de départ est douteuse, mais en cours, on peut dire n'importe quoi, on va peut-être perdre, mais ça
parce
va nous coûter.
Parce que les chiro, donc, valaient en cours.
Et, oui. Effectivement, les chiropraticiens en 2008 l'ont poursuivi. En première instance, la Cour a accepté l'argumentaire des chiropraticiens.
Oui.
comme étant une question factuelle. Et là, bien sûr, Singh et The Guardian sont allés en appel et le 10 ou 15 avril 2010, ça vient de sortir, Singh a gagné en appel. La Cour a jugé que c'était une critique acceptable dans les circonstances que d'émettre ce doute sur l'efficacité scientifique des traitements chiropraticiens.
Donc, les chiro-britanniques, j'insiste, ont perdu leur cause.
Ont perdu leur cause et, dans un communiqué, ont décidé de ne pas aller en appel. Parce que, bien sûr, ils auraient pu décider d'aller
continuer,
jusqu'en Cour suprême. Ils se sont dit satisfaits, donc ils ont fait, comme toujours, un gain moral. Quand on perd, on dit toujours que moralement, on a gagné. Ils ont gagné parce que M. Singh a admis que son but n'était pas d'attaquer la réputation des chiropraticiens. Vous voyez le jeu.
Simon Singh, le journaliste, donc, a tout gagné, non?
A tout gagné et dans une conjoncture très intéressante, parce qu'en Angleterre, pour des questions juridiques hyper complexes dans lesquelles on ne peut pas entrer et que je ne comprends pas de toute façon complètement,
oui.
C'est que la façon dont la loi est écrite, c'est beaucoup plus facile que partout ailleurs dans le monde de poursuivre contre diffamation, parce que si vous diffamez quelqu'un, vous devez démontrer que ce que vous dites est vrai, ce qui est quasiment impossible. Hein. Démontrer qu'une chose est vraie, c'est assez difficile à démontrer, alors que l'autre n'a pas le fardeau de la preuve de démontrer que c'est faux. Donc, il y a une asymétrie entre les deux qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont en Angleterre d'abord faire leur guerre. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs à Barry Gold, qui poursuit ici les auteurs de Noir Canada, ont fait une poursuite similaire en Angleterre il y a quelques années, et ils ont gagné parce que les gens ont été obligés d'admettre qu'ils ne pouvaient pas prouver que c'était vrai. Voyez-vous, donc la fardeau de la preuve est très, très lourde.
Et puis notre journaliste a aussi des frais de cours, ça c'est un autre problème, de toute façon.
Et c'est ce qu'il dit, que bien qu'il ait gagné, et que maintenant il y a tout un courant en Angleterre qui demande que la loi sur la diffamation soit révisée, là il veut maintenant s'assurer que ces frais de cours qui dépassent 200 000 euros vont être pris en charge et que la Cour va déclarer les dépens aux dépens, justement, de l'Association des chiropraticiens.
Et ça vous a rappelé, ça, Yves Gingras, une histoire un peu analogue de diffamation ou de poursuite, de tentative de poursuite, qui s'est passée, elle, vraiment très, très près de chez nous, il n'y a pas très longtemps.
Oui, au Québec. Et la raison pour laquelle je m'en souviens, bien que ça date d'octobre 2006, c'était que lorsque j'ai entendu cette histoire qui est tellement drôle qu'on croit que c'est une blague, ça m'a confirmé dans mon idée que les organisations professionnelles, y compris les ordres professionnels, ont aujourd'hui la peau tellement sensible que même une blague peut donner matière à une interprétation complètement surréaliste.
Alors, c'était quoi? C'était qui?
C'était, bien sûr, à notre célèbre Assemblée nationale. Il y avait un débat, et on sait que dans la période de questions, les débats sont parfois orageux et même souvent très comiques. C'était donc M. Mario Dumont qui, en boutade, avait attaqué le ministre des Ressources naturelles, Pierre Corbeil, qui s'adonnait à être un chirurgien dentiste, en lui disant « menteur comme un arracheur de dents ». Et vous savez tous que « menteur comme un arracheur de dents », c'est une expression qui, dans le Petit Robert, on pourrait dire depuis des siècles, une expression classique et très ancienne. Mais grosse surprise, l'Association des chirurgiens dentistes du Québec a alors émis un communiqué officiel tout à fait sérieux, dans lequel elle demandait à M. Mario Dumont de s'excuser et elle écrivait, je cite, que ses propos mettaient en doute la qualité des soins que les dentistes prodiguent et qu'elle sapait les efforts qu'elle déploie depuis des décennies envers et contre tous les préjugés passéistes et leurs peurs irraisonnées pour encourager la population québécoise à préserver sa santé en fréquentant régulièrement les cabinets dentaires. Donc, voyez, elle s'est dit que ça, c'était une attaque à la réputation des dentistes que d'utiliser publiquement l'expression « menteur comme un arracheur de dents ». Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'un citoyen québécois répondant dans Le Devoir avec un très bon sens de l'humour a dit « Oui, mais s'il avait dit qu'il ment comme il respire, aurait-il été poursuivi par les pneumologues?
» Donc, bonne question, effectivement.
Bonne question. Et derrière ça, la question sociologique importante, c'est quelle est la limite de l'idée qu'on ne peut pas attaquer la réputation d'un ordre? C'est pas une personne individuelle et on peut remettre en cause les critères scientifiques. On peut douter des preuves scientifiques sans transmettre ça comme une vision qui attaque la personne. Mais bien sûr, c'est dans l'intérêt d'eux de le percevoir comme ça. Donc, quand les chiropraticiens britanniques ont dit qu'ils interprétaient la phrase de Singh comme une attaque, c'était bien sûr une interprétation et non pas une citation factuelle qui, elle, était scientifique. Oui ou non, il y a des preuves en double aveugle de l'efficacité des traitements de chiropratie ou de l'homéopathie. C'est une chose qui doit se décider de façon scientifique et non pas en cours.
Yves Gingras, je vous remercie beaucoup. Alors ce soir à la télé de Radio-Canada, 18h30, je vous invite à ne pas manquer Découverte, le 8e épisode de la série Terre, la grande aventure de la vie. On vous parle des créatures des profondeurs. Et parlant de profondeur, vous restez avec nous pour la deuxième heure des années-lumière. Les années-lumière, deuxième heure. Rebonjour, re-Yannick Villedieu, re-l'équipe du magazine d'actualité de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Alors, cette deuxième heure, elle va commencer avec Chantal de Srivastava, un sujet profond, les océans. Puis après le petit journal de la science, je vais recevoir l'auteur de la semaine, le paléontologue Jean-Louis Artemberger, qui s'attaque à un sujet élevé. Lui, son livre s'intitule « Grandeurs et décadences de la girafe ». Et c'est publié aux éditions Belin pour la science. Mais avant les girafes, il y a les océans. Alors l'UNESCO accueillait cette semaine à Paris la 5e conférence mondiale sur les océans, les côtes et les îles. Un événement qui survient alors que ces milieux, Chantal Srivastava, sont vraiment bien mal en point.
On en a un exemple probant présentement même, Yannick, dans le golfe du Mexique, n'est-ce pas? Et ce n'est là qu'un des nombreux problèmes qui se profilent à l'horizon ou qu'on vit présentement. Alors, c'est justement pour faire le point sur toutes ces menaces que près de 800 participants provenant de près de 83 pays ont convergé vers Paris. Alors, au chapitre des sources de pollution dont il a été question, mentionnons entre autres cette fameuse île de plastique qui flotte dans le Pacifique, sans oublier tous ces minuscules débris de plastique qui sont ingérés par les poissons, la faune marine, avec des conséquences graves qu'on commence à peine à mesurer. Ajoutez à cela la surexploitation des ressources, l'impact des changements climatiques avec, entre autres, la hausse des concentrations de CO2 qui provoque un phénomène d'acidification des océans. Encore là, les effets commencent à peine à être évalués. Bref, les menaces qui pèsent sur nos océans sont nombreuses. Yannick, et cette semaine, les experts ont sonné l'alarme à Paris, entre autres concernant l'érosion de la biodiversité marine. Je vous donne une statistique parmi tant d'autres. 20% des récifs de coraux ont aujourd'hui disparu, une diminution qui risque fort de s'accentuer au cours des années, des décennies qui viennent.
Donc, des mises en garde, des pistes de solutions aussi?
Bien sûr, Yannick, des recommandations qui ont été faites dans le cadre de cette 5e conférence mondiale sur les océans, les côtes et les îles. Alors, entre autres, les experts aimeraient qu'on se préoccupe davantage de l'avenir de nos océans qui couvrent, rappelons-le, près des trois quarts de la planète. Il faut, selon eux, plus de données scientifiques et peut-être même un GIEC des océans, un groupe d'experts.
Oui.
Également, on souhaite la mise en place d'un vrai réseau de réserves marines protégées et ce qu'on appelle, dans le jargon, une vraie gouvernance globale pour préserver les océans. Des recommandations qui seront, me disait-on, transmises au cours des mois qui viennent aux grands de ce monde.
Donc, beaucoup de pain sur la planche à voile. Et pour mieux saisir tous ces enjeux, vous avez joint deux experts pour qui les océans sont vraiment une passion.
Tout à fait, parce qu'ils ont participé tous les deux de très près à la préparation du documentaire du film « Océan » du cinéaste Jacques Perrin, qui est projeté au cinéma depuis quelques semaines déjà. Il s'agit de François Sarano, océanographe et plongeur professionnel, et de Stéphane Durand, biologiste, ornithologue et journaliste scientifique. Alors, tous les deux, Yannick, ont été conseillers scientifiques et co-scénaristes du film. Ils ont en plus écrit ensemble le livre Océan qui nous permet d'entrer dans les coulisses de la production, un très beau livre qui est paru au Seuil. François Sarano et Stéphane Durand sont allés en studio à Paris. Ils nous racontent cette aventure mémorable.
C'est grâce à mon père que j'aime la mer, que j'aime les créatures marines, que j'aime nager dans les vagues, dans les brisants. J'ai commencé à nager vers 4 ans avec un masque et un tuba dans des eaux de la Méditerranée qui étaient belles et pures. Et puis plonger dans les années 68-69, j'ai commencé à plonger. Cousteau en 85, après un doctorat d'océanographie, donc je suis resté longtemps dans la mer. Et puis là, cette chance inouïe offerte par Jacques Perrin. de le rejoindre sur le film Océan et de partager l'aventure d'une équipe formidable.
Moi, je ne connaissais pas grand-chose aux océans. J'étais biologiste plutôt terrestre ou même aérien, mais j'ai dit oui tout de suite et je me suis dit j'apprendrai sur le tas. Et comme nous avons très vite rencontré des gens du calibre de François qui est à côté de moi, là, c'est un pur bonheur et on apprend tous les jours.
François Sarano, Stéphane Durand. Alors ce projet, j'aimerais peut-être que vous m'en parliez un peu plus, parce que quand on voit le film au grand écran, c'est à la sauce Disney, les animaux sont des personnes presque auxquelles on s'attache, mais derrière ce film-là, il y a une science, il y a un monde de connaissances, il y a également des tours de force, des prouesses, des années de travail. Pour vous, qu'est-ce que c'est que ce film? Qu'est-ce qui vous a marqué? Stéphane Durand d'abord.
Il faut dire qu'on a travaillé pendant 8 ans. Pour amener ce film devant le public. Et ces 8 ans, ça commence par 3 ans de préparation, 3 ans pendant lesquels on ne tourne pas une seule image, mais on rencontre énormément de monde pour alimenter et enrichir nos rêves. Alors, qui est-ce qu'on rencontre? On rencontre des marins, des capitaines de bateaux, des pêcheurs et énormément de scientifiques. On rencontre aussi des écrivains, des poètes de la mer, mais surtout des scientifiques qui nous en apprennent à chaque rencontre énormément sur les animaux qu'ils étudient, sur les milieux qu'ils étudient. Et comme ça, au fil des mois, au fil des années, nous avons précisé le rêve que Jacques avait en tête et commencé à établir un plan de travail. Et ce n'est qu'en 2005 que nous avons commencé à tourner nos premières images. Et à partir de là, ça s'est enchaîné. Ça a été la folie des tournages pendant 4 ans et demi, jusqu'en 2009. Après, il y a eu près d'1 an de montage pour arriver à aboutir le film.
Alors, ces tournages, oui. François Sarano, vous ont amené à voyager, à plonger de par le monde. Pouvez-vous nous donner un bref aperçu de toutes ces eaux dans lesquelles vous avez nagé dans le cadre de la préparation de ce film?
Alors, nous avons plongé dans 54 sites exceptionnels, des sanctuaires souvent où nous avons retrouvé une vie riche, abondante, comme elle l'était un petit peu partout, dans tous les océans du monde avant la pêche industrielle. Nous sommes allés de l'Arctique, du plus nord, chez vous, à Cobourg, jusqu'au plus sud, en Antarctique. Nous avons visité les îles Galapagos, nous avons visité les côtes de l'Afrique du Sud, nous avons visité la Polynésie, l'Australie. Et dans tous ces endroits-là, nous ne sommes pas allés au départ chercher des espèces. Il existe 240 000 espèces connues, répertoriées par les scientifiques, des milliers, des millions peut-être, que nous ne connaîtrons peut-être même jamais. Et nous n'avons pas voulu faire un inventaire, pas plus que nous n'avons voulu donner des informations sur l'histoire naturelle de ces animaux. Ce que nous avons voulu faire, c'était de faire vivre aux gens, dans leurs tripes, dans leur ventre, dans leur cœur, toutes les émotions que ces créatures marines et que les océans peuvent nous faire vivre lorsqu'on est sous l'eau avec elles. Et donc la démarche, lorsqu'on a commencé à réfléchir sur ce film, après qu'on a eu rassemblé les informations avec les scientifiques, ça a été: quelles sont ces émotions que nous voudrions faire vivre aux spectateurs? Quelles sont ces émotions que nous-mêmes nous vivons et que les créatures nous offrent? Et lorsque nous ayons eu défini ces émotions, je prendrai par exemple la tendresse de la mer. On s'est dit, quelle est l'espèce qui va exprimer le mieux la tendresse de la mer? Et là, on a réfléchi longtemps, la baleine et son petit, non, c'est la maman morse qui enlace son nouveau-né dans ses bras. Cette image-là, nous la voulions parce que nous savions qu'elle allait exprimer toute cette tendresse. Et alors, nous avons rencontré d'autres scientifiques qui nous ont menés sur place pour qu'après 3 expéditions, nous ayons les images attendues. Et ça a été comme ça pour tout le film. C'est un film, encore une fois, qui n'apprend pas, mais qui fait ressentir, qui parle, encore une fois, à votre cœur. Et c'est une démarche qui est une démarche qui éveille la curiosité. C'est une démarche qui est non pas analytique, mais sensitive, sensuelle. Et cette démarche conforte, complète les informations scientifiques que nous avons d'abord collectées et qui peuvent être trouvées dans le livre, par exemple.
François Sarano, vous venez de témoigner donc de l'émotion qu'on veut faire vivre aux spectateurs, également aux lecteurs, dans ce livre que vous avez coécrit avec Stéphane Durand, qui est juste à côté de vous, où vous racontez votre expérience. Cette expérience-là se vit dans un contexte où on dit beaucoup de choses sur les risques que courent les océans de la planète. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues, que vous avez apprises, que vous ne connaissiez pas, que vous n'aviez jamais vues et que vous avez peur de ne jamais plus revoir, justement parce que ces espèces sont en danger?
Alors je dirais que chaque plongée nous a appris quelque chose de neuf. On a si peu d'expérience sur le terrain avec les animaux marins que chaque fois c'est une découverte. Maintenant, je dirais, nous avons vécu une situation dramatique. Nous, vous, toute la planète l'a vécu au cours de ces dernières années. Au début de la préparation, Jacques Perrin et Jacques Luzot nous avaient demandé de trouver l'animal qui exprimerait peut-être le plus l'intelligence de la mer. Nous avions pensé au dauphin du Yangtze-Kiang. Ce dauphin qui vit dans des eaux troubles, dans les eaux de l'estuaire du Yangtze-Kiang.
Ça, c'était en 2002.
Eh oui, c'était en 2002. Il est disparu depuis. Et voilà, nous avons voulu le filmer trop tard. Et c'est pour toujours. Il faut bien se rendre compte de ça. C'est pour toujours. Et ce n'est pas la faute de gens qui ne savaient pas. Ce n'est pas la faute des baleiniers du 20e ou du 19e siècle. C'est notre responsabilité à tous. Nous savions, et nous n'avons rien fait. Donc, nous ne voulons pas que ça se reproduise. Et aujourd'hui, le marsouin de la mer de Cortés, le vaquita, le dauphin de Hector, le marsouin du Yangtze-Kiang, sont dans la situation que connaissait le dauphin du Yangtze-Kiang lorsque les scientifiques ont commencé à tirer la signal d'alarme. Attention, attention, si vous ne faites rien, ils vont disparaître. C'est pour ça qu'il faut se battre. C'est pour ça qu'il faut se battre pour les sauver. Parce que demain, j'aurai honte, moi, de dire à mes enfants, voyez cet océan extraordinaire. Cet océan qui m'a offert tant de joie, ces baleines, ces dauphins avec lesquels j'ai nagé, eh ben, j'ai pas pu te les transmettre. Je les ai consommés, par insouciance, par inconscience, par caprice. Ils ont disparu. Vous pensez qu'on peut dire ça à ces enfants? Non, c'est impossible. Donc alors, ça vaut la peine de se battre pour que justement ça ne se reproduise plus.
Et justement, ce film Océan, François Sarano, est une arme pour des observateurs, des mers comme vous qui constatent la dégradation. Stéphane Durand, comme biologiste, vous avez également œuvré comme journaliste scientifique pour transmettre des réalités, des connaissances. Est-ce que c'était plus facile de le faire dans le cas d'Océan parce qu'on avait toutes ces espèces, cette faune, cette flore marine qui pouvaient transmettre le message?
Ce qu'il faut savoir, donc, comme on disait tout à l'heure, il y a toute une communauté scientifique qui nous a accompagnés. Hein. Dès le début, dès 2002, les scientifiques nous ont soutenus tous les jours, quotidiennement, en nous apportant énormément d'informations. Et pas uniquement pendant la préparation, hein. Ils étaient avec nous sur les tournages, ils nous ont permis d'obtenir les autorisations. Donc le film, hein, il ne serait pas ce qu'il est sans l'aide des scientifiques. Et aujourd'hui encore, les scientifiques sont ravis de cette collaboration puisqu'ils travaillent sur nos images. Tout à l'heure, François disait parlait de l'émotion et de ce qu'il apprenait en plongeant et que chaque plongée était une découverte, mais c'est exactement la même chose aussi pour les scientifiques. Les scientifiques, à travers les images, apprennent des choses. Donc on est en train de mettre en place une collaboration avec eux, avec la communauté scientifique, pour leur permettre d'accéder à nos images, pour qu'ils puissent étudier. Je pense à un exemple qui est déjà en cours d'études, hein, puisqu'il y a déjà un programme de recherche en France sur ces images-là. C'est les images du Sardine Run, cette fabuleuse orgie, le fabuleux festin de la mer qui se déroule chaque année au large de l'Afrique du Sud.
Avec les fous du Cap et les dauphins, oui. Pour les gens qui n'ont pas vu le film, les oiseaux qui plongent en flèche et qui vont ramasser les sardines,
exactement,
qui essaient de fuir le fond,
exactement,
de l'eau où les dauphins les traquent.
Voilà. Chaque année, les sardines se rassemblent comme ça, pas très loin des côtes, et les dauphins leur mènent la chasse, rassemblent des paquets de sardines qui leur remontent vers la surface, et là, les offrent en pâture aux requins, aux baleines, aux otaries, aux manchots, et aussi au fond du cap qui plonge comme des bolides à toute vitesse à travers la surface. Et ça, c'est ces images-là. Un spécialiste du fond du cap qui a toujours observé les fonds du cap depuis le pont du bateau, voire même depuis la côte à travers ses jumelles, il ne sait pas, il n'a jamais su ce qui se passait sous l'eau. Quand l'oiseau qu'il étudie depuis tant d'années plonge sous la surface, qu'est-ce qui se passe en dessous? Il imagine bien qu'il va pêcher des poissons, parce que c'est son régime alimentaire, mais point. Il n'en sait pas plus. Et avec nos images, c'est comme s'il avait nagé avec eux au milieu des sardines. Ils ont pu, voilà, le programme de recherche qui est actuellement mis en place, ça leur permet, voilà, c'est Yann Tremblay de l'Institut de Recherche et du Développement en France. Cela lui permet de mesurer les taux de capture des sardines, de voir le comportement alimentaire des fous, de voir qu'ils poursuivent activement les sardines sous l'eau, les yeux ouverts, qu'ils avalent les sardines sous l'eau alors qu'on pensait qu'ils les avalaient seulement en surface. Enfin, ils font une multitude de découvertes comme ça qui leur étaient impossibles si on n'avait pas eu ces images et si eux-mêmes ne plongent pas. C'est pour vous dire que l'expérience de terrain est vraiment indispensable et que l'image des cinéastes permet d'amener à travers l'écran les scientifiques dans l'eau, avec eux, auprès des animaux, dans leur milieu naturel, les voir vivre et évoluer dans leur milieu naturel.
Ouais, je rajouterai que vous avez au Canada un des plus grands cétologues, qui s'appelle Richard Sears, qui travaille à la station marine de Mingan, qui la dirige, qui l'a montée, et qui nous a beaucoup aidé dans la préparation de ce film, et qui a découvert les images, par exemple, de la baleine bleue qui avale le banc incroyable de krill, et c'était pour lui quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que lui, qui connaît les baleines mieux que personne, il a encore été surpris par les images incroyables que David Reichert a tournées sous l'eau, parce que pour la première fois, on voyait ça. Il y a beaucoup de premières fois.
Première fois également sur le plan technique, je crois, en quelques innovations qui ont permis de capter ces images, de les enregistrer, parfois après plusieurs reprises, mais il fallait développer aussi une certaine technologie, des caméras particulières qu'on pouvait immerger dans l'eau et ainsi de suite.
Eh bien, l'objectif du film, pour faire ressentir, c'était d'être au contact des animaux. Au contact, ça veut vraiment dire à côté, en permanence à côté. Alors d'abord, il fallait rompre la distance critique en deçà de laquelle les animaux fuient. Et donc, il fallait du temps, pour que tout d'un coup, ce soit ces animaux qui nous offrent la rencontre. Et ça change tout. Mais lorsque ces animaux nagent à 20 km à l'heure, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait lorsque tout d'un coup, ils montent à 40 km à l'heure? On ne peut plus les suivre. Il a fallu donc inventer des outils pour ça. On a donc mis au point des caméras qui, stabilisées, permettaient de rester avec ces animaux au contact, avec des objectifs très grand angulaires, pour encore une fois non plus les filmer de loin comme des objets d'étude, mais pour vivre avec eux leur déplacement, pour être dauphin qui perce la vague, pour être dauphin qui cavalcade. Et on est à ce point proche d'eux, qu'on a l'impression, encore une fois, d'être ce dauphin. Et non pas qu'on le regarde, on ne tremble plus dans la vague, on la perce. On reste avec des thons qui migrent à plus de 20 km à l'heure. 20 km à l'heure, encore une fois, à travers les océans. Et là, non seulement on est avec eux, mais on les précède. On les voit comme si nous étions nous-mêmes un thon qui migre. Et ces innovations technologiques, qui sont un peu des prouesses techniques, elles n'auraient aucun intérêt si tout d'un coup, elles ne renforçaient pas, elles ne faisaient pas complètement basculer l'analyse en émotion, parce qu'on vit avec eux.
Qu'est-ce que vous avez vécu de plus frappant, François Sarano? Et là, ce que j'ai pu comprendre dans le livre que vous co-signez avec Stéphane Durand, c'est que vous avez fait un face-à-face fort marquant avec un grand requin blanc, une dame requin blanc, et que ça vous a marqué, mais c'était la rencontre la plus importante que vous avez faite sous l'eau dans le cadre de la préparation de ce film?
Oui, il y a eu bien des rencontres importantes. Alors d'abord, le face-à-face avec le requin blanc est quelque chose de très aisé. Vous vous mettez à l'eau, ils arrivent tout de suite, vous êtes face-à-face. Ça, c'est très facile.
C'est la suite qui peut se compliquer.
C'est très facile. Non, parce que ce sont des animaux timides, méfiants. La difficulté, c'est de nager épaule contre nageoire avec lui. Parce que seuls les requins blancs les plus puissants, ceux qui sont véritablement sûrs d'eux, acceptent que tout d'un coup, on puisse les approcher, presque à toucher, sans les toucher, avec respect, et que, pendant quelques instants, vous puissiez les accompagner. Ça, c'est difficile. Il s'agit juste de replacer les choses dans leur contexte. Le requin blanc, c'est un animal magnifique, puissant. C'est un seigneur. Mais, il a un cerveau de poisson. Il ne sait pas. C'est vous qui savez qu'il est beaucoup plus puissant que vous. Lui ne sait rien. Lui ne calcule pas, il ne se projette pas dans le futur. Il réagit. Et à quoi réagit-il? À des choses qu'il connaît. Lorsqu'il charge, et lorsqu'il charge, c'est très impressionnant, parce que un animal qui fait une tonne et demie, c'est 1,50 m, qui arrive à pleine vitesse, qui baisse ses ailerons à la verticale, c'est quelque chose d'impressionnant. Donc il a l'habitude de voir fuir devant lui. Mais si vous ne fuyez pas, il est complètement décontenancé. Et tout d'un coup, il se dit, si ça ne fuit pas, c'est que c'est au moins aussi puissant que moi.
Pour la petite histoire, le plus dur dans ce tournage-là a été de vaincre les réticences de l'équipe, en fait. Il faut savoir que François nage avec le requin blanc depuis plus de 10 ans, et quand nous l'avons rencontré en 2002, aucun dans l'équipe, Jacques Cluzeau, Jacques Perrin et les autres membres de l'équipe, on n'imaginait pas une seconde faire ce genre d'image. On était tous conditionnés par Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Et jamais on n'aurait imaginé faire ça. Et on a rencontré François en 2002, et pendant 2 ans, il nous a tenu le discours qu'il vient de tenir, là, qui est extrêmement convaincant, et il a fini par nous convaincre, et nous avons monté cette mission au large du Mexique en novembre 2005. Et comme je vous dis, le plus dur, c'est que toute l'équipe des plongeurs, les caméramans, les plongeurs de sécurité, les photographes, eh ben, au début, le premier jour, sur le pont du bateau, ils n'en menaient pas large. Hein. On avait immergé 2 cages de protection. Et voilà, le premier jour, il y avait une grosse tension. Et puis petit à petit, seul François nageait librement tout autour du bateau, au milieu des requins. Et petit à petit, tout le monde s'est rendu compte qu'il n'y avait évidemment aucun problème. Que ces animaux étaient surtout, comme vient de le dire François, hein, craintifs, très méfiants, et qu'ils avaient du mal à se laisser approcher. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a réalisé cette séquence.
Et donc, ces tournages se sont bien déroulés ou il y a parfois où vous avez eu peur pour votre sécurité, parce que la mer était dure, parce que les animaux n'étaient pas contents de vous voir ou pour quelque raison que ce soit?
Avec les animaux, nous n'avons eu que des satisfactions. Parfois, elles se sont restées un petit peu loin, mais nous n'avons eu aucune difficulté. En Australie, on a malheureusement perdu tout notre matériel et un zodiac parce que le bateau, avec toute l'équipe, s'est laissé surprendre par une vague très très grosse et il a été retourné. Heureusement, après 2 ou 3 heures dans l'eau pour certains, chacun a été récupéré et ça s'est très bien terminé. Voilà. Mais c'est une belle peur, parce que lorsque tout d'un coup on est en pleine mer, qu'on perd tout et qu'on se retrouve dans une mer démontée, ça peut être très dangereux.
C'est ainsi, en France où vous êtes, on parle beaucoup d'océans avec cette conférence mondiale sur les océans, les côtes et les îles. Et je ne peux pas vous laisser partir, François Sarano et Stéphane Durand, sans parler avec vous en marge de ce film des inquiétudes et des besoins les plus pressants pour préserver donc les océans, leur qualité. Stéphane Durand, quelque chose de spécial que vous avez appris durant ce film qui nous amènerait peut-être à avoir une idée de ce qu'il faut faire pour préserver les océans pour la suite des choses?
J'ai appris une chose vraiment qui me paraît essentielle au cours de ce film, moi qui suis plutôt un biologiste terrestre, c'est que l'environnement marin, la vie marine est extrêmement forte, avec une grande résilience, très résistante, beaucoup plus qu'un environnement terrestre. Vous allez en Afrique ou en Amérique du Sud, vous coupez à blanc tout un pan de la forêt équatoriale, et il faudra des siècles avant de retrouver un environnement aussi riche et aussi varié. En mer, il est impossible de vider la mer, parce qu'avec le jeu des courants marins, il y a toujours des sels minéraux qui viennent, qui ensemencent la zone, les larves, les animaux se déplacent sans cesse, il est impossible de vider une zone de la mer. Autre chose, François nous racontait, les autres membres de l'équipe de Cousseau nous racontaient qu'il y a 30 ou 40 ans, il aurait été impossible pour eux de faire les images que vous voyez dans notre film Océan à propos des baleines. Les baleines bleues, les baleines à bosse, il aurait été impossible pour eux de les filmer parce qu'elles avaient été chassées, les rares qui restaient étaient très furtives, fuyaient l'homme. Et aujourd'hui, on pourrait dire que pratiquement tout le monde peut nager avec les baleines. Pourquoi ? Parce que dans les années 80, il y a eu un moratoire qui a interdit la chasse à la baleine. Et depuis ces années-là, les populations se sont reconstituées. Je ne dirais pas jusqu'à leur niveau d'antan, il y a quelques siècles, mais quand même, les populations sont a priori hors de danger. Et les rencontres sont beaucoup plus aisées qu'à l'époque, il y a 30 ans. Donc voilà, ce sont des signaux, hein. C'est pareil pour les phoques, les otaries, pour les loutres de mer. Il y a pas mal d'espèces de mammifères marins comme ça qui sont revenus de loin d'ailleurs, hein, qui ont frôlé l'extinction, mais qui maintenant sont sortis d'affaires. Donc il y a vraiment pour nous un message d'espoir dans le film Océan.
Mais tout ça est fragile quand même, François Serrano.
Oui, c'est sûr.
Alors, c'est très important ce message d'espoir. Pourquoi ? Parce que ça prouve que si l'on prend les bonnes mesures, ça marche. Donc, ça vaut la peine de se battre. Et il faut se battre. Et il faut se battre pour sauver les requins. Les requins qui sont victimes du finning, c'est-à-dire de l'aileronnage. On leur coupe leurs ailerons pour faire un potage, pour satisfaire le caprice de quelques gourmets. C'est inadmissible. Il ne s'agit même pas de manger, il s'agit de caprice. On ne peut pas mettre en danger des populations de poissons qui ne peuvent pas supporter ce rythme de pêche, simplement par caprice. Et il faut savoir que les requins, comme les baleines, sont des animaux à durée de vie longue, à faible fécondité, maturité sexuelle tardive. Ils sont très, 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 très sensibles à toute exploitation. Ils ne peuvent pas être exploités industriellement sous peine de disparition. Donc, il faut se battre pour les sauver. Et encore une fois, si nous prenons les bonnes mesures, ça va marcher. Donc, je vous encourage. On ne peut aller que vers du mieux si on se bat. Voilà pourquoi ça vaut la peine. Voilà pourquoi ça vaut la peine.
On se bat faisant quoi, François Serrano? Quel genre de mesures on adopte pour exploiter de manière durable les ressources de la mer?
Alors d'abord, je crois que la société civile, nous devons exercer notre contre-pouvoir. Nous devons dire que nous voulons une mer vivante. Nous voulons dire que nous voulons offrir à nos enfants une mer plus riche que celle que nous connaissons aujourd'hui. Et nous pouvons nous exprimer par le vote, mais aussi à travers des associations. Vous pouvez aussi rejoindre ces associations. Vous pouvez, par des pétitions, et je vais vous donner des exemples très concrets, permettre de prendre des mesures de protection avec notre association Longitude 181 Nature, qui avait lancé il y a quelque temps la charte internationale du plongeur responsable. Nous avons lancé une pétition pour protéger les requins en Polynésie française, les requins qui étaient en phase d'être exterminés à cause du finning. Après 4 années de pétition, le gouvernement de Polynésie a mis tous ces requins dans le plus grand territoire marin du monde en réserve. Et on ne peut plus les chasser, on ne peut plus les pêcher, on ne peut plus détenir des dents, des mâchoires ou des ailerons. Ça a marché. Voilà un endroit où ils sont protégés. Et nous faisons la même chose pour la Calédonie. Et ça va marcher. Donc j'enjoins chacun à se battre parce que, encore une fois, ça vaut la peine.
Sauf que vous devez parfois avoir l'impression, François Serrano, quand on fait un pas en avant, on en fait peut-être 2 derrière, à voir entre autres ce qui se passe avec la...
Eh bien, raison de plus pour en faire en avant. C'est-à-dire que, alors là, vraiment, vous confortez encore mon discours. Oui, je ne veux pas laisser à mes enfants une mer vide ou un monde où tout serait standardisé sans vie sauvage. La vie sauvage nous est essentielle. Essentielle parce que le sauvage, c'est l'imprévisibilité. Et notre esprit a besoin de ça. Si nous allions vers un monde où tout serait prévisible, un monde où tout serait standardisé, alors nous irions vers un monde carcéral, un monde épouvantable, un monde où il n'y aurait que survie et non plus la vie. La vie, c'est la vie sauvage. On doit lui faire une place, on doit lui laisser des espaces de liberté. Et c'est pour ça que ça vaut la peine de se battre, même si, évidemment, quand on entend les propositions de retour à la chasse à la baleine, à la CBI...
La Commission baleinière internationale.
Les bras m'en tombent. Comment on peut, je dis bien par caprice là pour le coup, parce que personne ne mange de viande de baleine, personne, comment est-ce qu'on peut massacrer des animaux qui dansent comme des papillons, qui sont d'une délicatesse phénoménale et qui enchantent, je dis bien qui enchantent tous ceux qui les ont vus. Je souhaiterais vraiment que chaque baleinier, un jour, ait l'occasion d'être face à face avec une baleine sous l'eau. Et je crois que pour le coup, il serait à ce point bouleversé que plus jamais il n'oserait présenter un harpon devant un tel animal.
Ben écoutez, je vous remercie infiniment tous les deux d'avoir pris la peine de venir nous raconter votre expérience en studio et d'avoir contribué donc à nous faire voir ces splendides images de l'océan, aussi bien dans le film Océan que dans le livre que vous avez coécrit et qui est paru au Seuil. Merci beaucoup tous les deux.
Merci
beaucoup.
Au revoir.
C'était l'océanographe François Serrano et le biologiste Stéphane Durand. Ils sont conseillers scientifiques, donc co-scénaristes aussi du film Océan, auteur du très beau livre Océan, qui est tiré du film, avec des photos saisissantes.
Vraiment saisissantes, Yannick. Alors, c'est paru au Seuil, ce titre, et vous avez donc l'embarras du choix pour poursuivre ce voyage dans les mers. À noter cependant que la version du film qu'on nous présente ici est différente de celle qu'on peut voir en France.
Ah oui?
Tout d'abord ici, oui, le biologiste Jean Lemire fait la narration, mais surtout, le film chez nous a été écourté d'une vingtaine de minutes. On n'a pas, nous, les scènes plus crues sur le massacre des baleines ou des requins. Disney Nature, qui distribue ici le film, a souhaité présenter de ce côté-ci de l'Atlantique une version plus familiale, une version qui est moins engagée, ont tenu à souligner François Sarano et Stéphane Durand.
Merci beaucoup, Chantal. Et là-dessus, on s'en va au petit journal de la science avec, entre autres, notre stagiaire Fernand Seguin, Mathieu Gobeil.
À l'approche de son premier anniversaire, le télescope Herschel livre ses premières révélations sur la formation des étoiles. Le plus grand télescope orbital a détecté une jeune étoile qui promet. Elle pourrait devenir la plus massive et la plus brillante des étoiles de la Voie lactée. Selon les observations réalisées dans l'infrarouge, l'étoile embryonnaire a déjà atteint une masse équivalent 8 à 10 fois celle du Soleil, ce qui représentait jusqu'à présent la limite supérieure pour la masse des étoiles. Pourtant, la jeune étoile observée n'a pas fini de grandir et le nuage de poussière et de gaz qui l'entoure représente une masse qui équivaut à 2000 fois celle de notre étoile. La petite étoile observée par le télescope spatial européen dans la région de formation stellaire RCW-120 doit poursuivre sa croissance pour encore quelques centaines de milliers d'années.
Les diabétiques du type 1 ou juvéniles pourraient bientôt se passer des piqûres au bout du doigt et des injections quotidiennes d'insuline. On vient en effet de mettre au point aux États-Unis un pancréas artificiel entièrement robotisé. Un glucomètre inséré sous la peau du ventre prend la mesure de la glycémie en temps réel 24 heures par jour. Ensuite, une pompe de la taille d'un iPod, attachée à la taille, calcule et administre automatiquement la dose d'insuline requise sans que le diabétique ne se rende compte de rien. La difficulté, chacun réagit différemment à l'insuline, ce qui demande des ajustements personnalisés. Néanmoins, les premiers essais en Europe et aux États-Unis sont concluants. L'appareil diminue de 8 fois les épisodes d'hypoglycémie par rapport aux injections manuelles. À quand la commercialisation? D'ici 5 ans, selon la Fondation de la recherche sur le diabète juvénile, principal pourvoyeur dans cette aventure.
Cette semaine, dans la revue Science, les sceptiques du climat sont véritablement confondus. Dans une lettre on ne peut plus claire, 225 membres de l'Académie américaine des sciences, dont 11 récipiendaires du prix Nobel, se portent à la défense des conclusions du GIEC, le groupe d'experts sur l'évolution du climat. Pour ces scientifiques provenant de 53 disciplines, les preuves objectives sont indéniables. Les humains modifient le climat de telle sorte que nos sociétés et les écosystèmes dont nous dépendons sont menacés. La missive condamne également les attaques récentes contre des scientifiques du climat, qui sont motivés, et je cite, « par des intérêts et des dogmes, et non par un effort honnête pour fournir une théorie alternative qui satisfasse les preuves qu'on voit autour de nous ». On peut ignorer la science, se mettre la tête dans le sable et espérer être chanceux, conclut-il, ou on peut agir rapidement et de manière significative pour réduire la menace posée par les changements du climat.
C'est au Canada qu'on retrouve le plus grand barrage de castors au monde, plus précisément en Alberta, dans le sud du parc national Wood Buffalo. L'ouvrage mesure 850 mètres de long et il est visible depuis l'espace. On peut le voir distinctement sur les images satellites. En général, les barrages construits par les castors mesurent moins de 75 mètres de long, ce qui fait dire aux spécialistes que ce grand barrage de 850 mètres est l'œuvre de plusieurs familles. Sa construction a commencé en 1975. Les castors sont de très mauvais marcheurs et de très bons nageurs, et ils se servent notamment des barrages pour échapper à leurs prédateurs naturels comme les coyotes et les ours. Les barrages contribuent également à la lutte contre les gaz à effet de serre. Pour les construire, les castors utilisent du bois et des végétaux, et quand ces végétaux meurent, ils se transforment en tourbe qui stocke le CO2, y compris le CO2 qui est produit par les activités humaines.
L'auteur de la semaine, maintenant, il s'appelle Jean-Louis Artemberger. Son livre s'intitule « Grandeurs et décadences de la girafe ». C'est aux éditions Belin pour la science. Et M. Artemberger est dans le studio de Radio France à Montpellier. Bonjour.
Bonjour.
Alors, M. Artemberger, votre livre, c'est « Grandeurs et décadences », donc c'est au pluriel. Mais je vais commencer par une question au singulier. Quelle est la grandeur de la girafe?
Plus de 5 mètres. Elle domine le monde, c'est incontestable.
Ah ouais, ouais. Et sa grandeur, au sens figuré du mot, c'est quoi?
Oh, sa grandeur, c'est que c'est un animal magnifique, d'une élégance rare, et qui, ma foi, partage le quotidien des hominidés depuis déjà plus de 5 millions d'années.
C'est un animal, en fait, mythique, hein, qui a fait rêver à peu près tous les enfants, je dirais petits et grands de ce monde, dont vous, quand vous étiez petit, dont beaucoup, beaucoup de gens. Hein.
Oui.
Et on va rappeler en quelques mots cet épisode fabuleux de la première girafe qui traverse la France. On est en 1827. Ça arrive à Marseille, ça va à Paris, quoi, c'est 700-800 kilomètres à pied.
À pied.
On imagine l'épopée.
Ah, ce fut une épopée probablement extraordinaire et surtout qui souleva un enthousiasme populaire auquel on ne s'attendait pas. Il faut songer que Geoffroy Saint-Hilaire, le savant Geoffroy Saint-Hilaire, qui déjà avait participé à l'expédition d'Égypte avec Bonaparte, guida cet animal. Il était alors professeur au muséum et accompagné de deux vaches qui nourrissaient la girafe de leur lait, d'une antilope et de quelques mamelouks. Il partit de Marseille au printemps 1827 et étape par étape, il franchit les 700 kilomètres qui le séparaient de Paris.
Une épopée extraordinaire, mais qui explique un peu cet impact dans l'imaginaire collectif. Mais ce qui est étonnant, et vous le dites dans votre livre, c'est que la girafe a suscité relativement peu de recherches scientifiques. Ça, c'est étonnant quand même.
Ça, c'est quand même étonnant. Alors, on raconte, c'est bien sûr des mauvaises langues, que lorsqu'elle était installée dans les jardins du muséum sur les bords de Seine, sporadiquement, quelques chercheurs disaient « Oh ben cet après-midi, je vais aller observer la girafe ». Et ils prenaient une chaise, un petit carnet de notes, ils allaient passer l'après-midi tranquillement sous les platanes qui ombrageaient le jardin à regarder la girafe. Mais peu de publications furent issues de ces observations.
Même depuis ce 19e siècle, il y a eu quand même relativement peu de travaux. Alors c'est un animal qui est vraiment très très curieux et il faut commencer quand même si vous dites que c'est un sujet délicat, il faut commencer par le cou. Le cou de la girafe n'a pas plus de vertèbres cervicales que toutes les autres mammifères. Étonnant.
C'est étonnant. Et après tout, il est à peine plus long que celui du chameau, celui d'un chameau dont le cou serait déployé. Chaque vertèbre est à peu près 30% plus longue que une vertèbre ordinaire cervicale d'un autre mammifère. Mais vous disiez qu'elle est peu étudiée. Une très grande spécialiste est canadienne.
Oui.
C'est Anne Dagg de l'Université de Waterloo qui a fait des observations et un ouvrage tout à fait remarquable.
Je reviens quand même au cou, M. Artemberger, quand même. Ce cou de la girafe très long qui ne comprend pas plus de vertèbres que les autres coups de mammifères, 7 vertèbres. On a toujours pensé qu'il avait allongé au cours de l'évolution dans le but de brouter plus haut.
Oui, hein? Choisir les meilleures feuilles.
Oui.
Or, en fait, la girafe est un ruminant et comme beaucoup d'autres ruminants, la sélection s'effectue par ce que l'on appelle la sélection sexuelle, c'est-à-dire il y a des combats entre mâles et puis les femelles choisissent aussi, bien sûr, le mâle est le plus beau, le plus fort, enfin celui qui leur paraît. Et donc, chez les girafes, ces combats se font à coups de coups. Elles se collettent.
Et les deux mâles donc se donnent des coups de coups. Ça peut être assez violent d'ailleurs comme combat.
Très très violent. Et tout au long de leur vie, la bosse de corne qu'ils portent sur le front, vous savez, ce sont des cornes sous-dermiques qui sont très pesantes et qui amplifient les mouvements du cou lorsqu'elles se collettent et s'affrontent. Mmh. Et il peut arriver d'ailleurs que à l'issue d'une de ces luttes, l'un des mâles soit si affaibli qu'il périsse sous la dent des hyènes ou des lions.
Donc on explique l'allongement du cou de la girafe par ses combats. Sont les mâles les plus forts. Les plus forts sont que le cou le plus fort qui se reproduisent et au fil des siècles.
Qui ont plus de chances de se reproduire.
Et voilà, et au fil des siècles.
Et des générations, ma foi.
Il y a une sélection pour les longs coups.
Voilà.
C'est ça. Et une autre curiosité scientifique, c'est la circulation sanguine.
Ah,
ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Comment ça marche ?
Avec un cœur presque ordinaire. Puisqu'après tout, le cœur, comme chez la plupart des mammifères, il fait à peine 0,5% du poids total. C'est-à-dire, un cœur de girafe, ça pèse une douzaine de kilos. Si ce n'est que le ventricule gauche est très développé, parce que cette pompe cardiaque doit irriguer constamment le cerveau.
Oui, enfin, qui est à 2,5 mètres au-dessus du cœur.
2,5 mètres au-dessus du cœur. Et en même temps, il ne faut pas aussi que dans les pattes surgissent des varices. Donc les artères du cou ont une paroi relativement mince et il y a tout un système de valvules et toute une vascularisation qui pallie aux baisses de tension. Et dans les pattes, au contraire, les artères ont une paroi très épaisse qui évite les excès de pression. Ceci étant, c'est un système de circulation qui marche remarquablement bien, puisque lorsqu'elle boit et se penche, dans la seconde qui suit, elle peut très bien se redresser sans avoir la tête qui tourne, si l'on peut dire.
Une autre curiosité, ce sont les taches de la girafe. Hein. Selon les populations... Bon, d'abord, c'est l'empreinte digitale de la girafe.
C'est sa carte d'identité.
Oui.
Et en naissant, les girafes possèdent le dessin définitif qu'elles porteront toute leur vie, si ce n'est que, bien sûr, au cours de la croissance, les taches s'élargissent.
Bien sûr.
Et les plages claires aussi.
Mais quand même, il y a des différences de type de taches entre différents types de populations de girafes.
On a pu montrer que, dans un premier temps, on ne croyait pas qu'il s'agissait d'espèces, de sous-espèces.
Oui.
Mais il y a 7 à 8 sous-espèces. Depuis la girafe du Niger, Peralta, ce qui veut dire très haut, puis il y a celle dédiée à un certain Rothschild, d'autres, la girafe du Cap, etc. La girafe réticulée, qui, elle, est celle qui a les taches les plus vastes, séparées par un réseau enfilé.
Alors, il y a un autre défi pour la girafe, c'est se nourrir. Elle est friande d'acacia, un arbre qui a des épines, qui se défend, etc. C'est aussi toute une histoire, l'alimentation de la girafe, oui.
Oui, parce que l'acacia, pour se défendre, dans ses épines, il abrite des fourmis.
Oui.
Et les fourmis, dès qu'une girafe commence à dévorer ses fleurs et ses feuilles, se précipite sur le cou de la girafe et la mordille. Et l'acacia, d'une certaine façon, pour remercier la fourmi, sointe des exudats, ce qu'on appelle d'ailleurs la gomme arabique, dont se nourrissent les fourmis. Il y a donc un mutualisme entre acacia et fourmis. Et les girafes, agressées par les fourmis, au bout de quelques minutes, il faut qu'elles changent d'arbre.
Mais elles ne changent pas d'alimentation. Elles mangent toujours de l'acacia, mais
elles mangent préférentiellement de l'acacia.
Oui.
Mais il y a une trentaine d'espèces d'arbres qu'elles peuvent manger. Et en fait, elles mangent essentiellement... Les acacias, c'est la grande famille des légumineuses arborescentes. Et dans les eaux, d'ailleurs, on les nourrit avec une autre légumineuse, la luzerne.
Ah d'accord, et, oui.
C'est-à-dire, ce sont des plantes qui sont très assimilables et qui sont surtout très chargées en sels minéraux. Et la girafe a besoin de ces sels minéraux, entre autres de calcium. Elle a des besoins en calcium qui sont 5 à 10 fois plus élevés que les nôtres.
Il faut dire qu'elle a des grands os, hein.
Oui, d'une part, elle a des grands os. Et puis, par exemple, les girafes mâles, les bosses de cornes qu'ils portent et l'ossature de leur cou et de leur crâne croît tout au long de leur vie et s'alourdit, de telle sorte que le poids du crâne d'une girafe mâle est deux fois plus élevé que celui d'une girafe femelle.
Alors, il y a une autre caractéristique, on va dire en deux mots, c'est le fumet, ce que vous appelez le fumet de la girafe. La girafe pue.
Et oui, la girafe pue. Et Anne Dag, d'ailleurs, rapporte que c'est un fumet qui déplaît singulièrement aux lions et que dès qu'ils sentent le vent d'une girafe, eh ben ils s'éloignent. Parce que la girafe, quand même, les femelles pèsent environ 800 kilos, les mâles une tonne et demie, et ce sont quand même des gros bestiaux. Et s'ils ne sont pas poursuivis par les grands carnivores que sont les lions dans des espaces où ils peuvent pas très bien courir, eh bien, les lions se méfient beaucoup des girafes qui peuvent, d'une ruade, les envoyer à de patresse.
Oui, oui, oui. Alors, Jean-Louis Artenberger, vous êtes paléontologue et spécialiste des mammifères. Et vous dites de la girafe et de la famille des girafidés que ce sont des ruminants parmi d'autres. Est-ce que ce sont des animaux que vous diriez ordinaires, communs? Est-ce que c'est banal, une girafe?
Ce n'est pas banal, mais la famille des girafidés, ce que l'on appelle girafidés, ce sont des ruminants qui portent des cornes sous-dermiques, comme la girafe. Et cette famille, on la voit naître au Miocène il y a un peu plus de 20 millions d'années, et elle s'est largement diversifiée. Et ce sont des animaux qui mangent des feuillages essentiellement, par opposition aux bovidés qui sont un peu plus récents, les antilopes, etc., qui eux mangent, disons, de l'herbe, du fourrage plus ordinaire. Et cette famille des girafidés, il y a l'okapi, il ne faut pas l'oublier,
oui,
qui est une forme de girafidés de forêt. D'ailleurs, on n'en compte plus qu'une quelques milliers de spécimens au Congo, essentiellement. Mais autrefois, elle a été très diversifiée. Il y avait des girafes avec des cornes en échelle, les Climatoceras, et puis les Civatherium, qui étaient d'énormes animaux de la taille de plusieurs tonnes, qui portaient une ramure très lourde et qui ont peut-être survécu jusqu'à l'époque historique, comme en fait foi des figurations que l'on trouve chez les Assyriens.
Alors, comme paléontologue, donc, vous pouvez nous dire d'où vient la girafe en termes de d'ancêtres? Est-ce qu'on a de nombreux fossiles, par exemple, de pré-girafes ou d'ancêtres de girafes?
Ah oui, 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 oui. Entre autres, dans les contreforts de l'Himalaya, les Siwaliks, il existe de très nombreux gisements où l'on a trouvé en nombre des girafes, y compris des vertèbres du cou, d'ailleurs. Et il se trouve qu'au cours des 5 derniers millions d'années, les Himalayas montant en altitude peu à peu, le régime des moussons s'est modifié. Et c'est à ce moment-là que les girafes ont gagné l'Afrique. Et c'est à cette période-là, il y a 5 à 6 millions d'années, que s'est faite cette rencontre que l'on peut qualifier de fortuite entre des hominidés, puisque
nos ancêtres, oui.
nos ancêtres qui vivaient dans les savanes. Et c'est à cette époque-là que s'est faite cette rencontre entre girafidés et girafes et hominidés. Et d'une certaine façon, comme les hominidés à ce moment-là s'étaient dressés sur leurs pattes de derrière, bien sûr déjà, mais ils ne mesuraient guère qu'un mètre vingt ou un mètre trente, et donc ils avaient bien du mal à distinguer les ennemis qui pouvaient se dissimuler dans la savane. Et d'une certaine façon, on peut imaginer que les girafes ont été leurs sentinelles, puisque elle-même domine largement les grands espaces et voit venir ces grands carnivores susceptibles de leur causer des ennuis.
C'est superbe comme idée que nos premiers amis, les amis de nos ancêtres, aient été les girafes.
Ah oui, je crois.
Merveilleux. Et ce qui est triste, justement, c'est que, en conclusion de votre livre, on terminera avec ça, vous avez un court chapitre, très triste d'ailleurs, qui s'appelle « Le crépuscule des girafes » et vous dites « Je suis pessimiste ».
Oui, parce que il y a eu bien sûr les sécheresses qui ont fait que on a assisté au cours des 30 dernières années à une régression du domaine des girafes, les savanes
habitables,
arborées.
Oui.
Mais il y a aussi le développement assez anarchique de l'agriculture industrielle pour l'opposer à l'agriculture vivrière.
Traditionnelle, oui.
Et traditionnelle et vivrière, c'est-à-dire qui nourrit les populations locales. Cette agriculture industrielle qui fait que nous avons des roses, des haricots verts, des échalotes à bon compte sur les marchés d'Europe ou d'Amérique du Nord.
12 mois par année, oui.
Et toute l'année, oui. Fait que le domaine de ces savanes arborées se réduit d'année en année. Et alors que l'on comptait, par exemple, un bon million de girafes il y a une cinquantaine d'années. En 2003, le chiffre était tombé à 130 000 et à l'heure actuelle, il est de l'ordre d'une petite centaine de milliers d'individus. Et la plupart de ces grands animaux vivent dans des parcs nationaux. Et qui plus est, s'ajoute à cette agriculture dévoreuse d'espace, il y a aussi les guerres. Et ces guerres ne font pas des victimes que chez les hommes.
Vous diriez donc que la girafe sauvage en tout cas, est menacée d'extinction à relativement court terme?
Hélas, à relativement court terme. Vous savez, je ne lis pas dans le marc de café, mais quand même, quand on voit cette chute de la démographie des populations sauvages, c'est quand même inquiétant.
Donc, pas moyen de la protéger, la girafe, en terminant?
Si, il y a des actions, mais il faut que les gouvernements s'accordent pour protéger ce qui est tout de même une ressource. Mmh. Et ma foi, ça fait d'une certaine façon, si les girafes disparaissent, nous suivrons. Parce que vraiment, cet irrespect de la nature, c'est nous-mêmes, nous ne nous respectons pas.
Et j'espère que votre livre, M. Jean-Louis Artemberger, va permettre de sonner l'alarme pour sauver les girafes. Donc, ce livre s'appelle « Grandeur et décadence de la girafe ». C'est publié aux éditions Belin pour la science. M. Artemberger en studio à Montpellier, dans le sud de la France. Merci beaucoup.
Merci à vous de m'avoir accueilli.
Et c'est la fin de cette édition des Années Lumière, une émission réalisée par Dominique Lapointe avec à la technique Michel Potvin, les journalistes Sophie-André Blondin, Hugues de Roussan, Chantal Srivastava et notre stagiaire Fernand Seguin, Mathieu Gobeille, journaliste au site internet Louis-André Bertrand, chroniqueur Yves Gingras. Demain, à l'Université de Montréal, c'est le début du congrès de l'ACFAS, l'Association francophone pour le savoir. On y passe toute la semaine. On enregistre jeudi midi devant public une émission spéciale. Alors venez nous rencontrer pour l'enregistrement. Et de toute façon, écoutez cette spéciale la semaine prochaine, même poste, même heure. C'est Yannick Villieu qui vous parle. Au revoir.